Eh bien déjà, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être déjà autant présents pour ce livre blanc qui me tient relativement à cœur. Donc, je l'ai nommé ce soir « La langue des signes, si bien plus que des gestes, une histoire, une culture, une communauté, en connaître ses codes et le quotidien d'un utilisateur SF pour être un citoyen averti. » Une citation également qui pour moi a plein de sens. Je vois comme je pourrais entendre, mes yeux sont mes oreilles, j'écris comme je peux signer, mes mains sont bilingues. Je vous offre ma différence, mon cœur n'est sourd de rien en ce double monde. Donc ça, c'est Emmanuel Laborie, qui est donc autrice du livre Le cri de la mouette, mais également directrice de l'IVT. L'IVT, donc, c'est l'International Visual Theatre, qui est en co-direction avec Jennifer Le Sage. Je vais vous parler un peu plus tard de l'IVT, puisque l'IVT a quand même joué un rôle extrêmement important dans la communauté actuelle de la communauté sourde. À la limite, je vais me présenter. Comme ça, vous allez un peu comprendre pourquoi est-ce que je vais parler la langue des signes ce soir. Donc, Anthony, 30 ans. Je suis utilisateur de la LSF depuis 2016 et j'ai été diplômé en 2017 donc d'un DCL, donc c'est les diplômes de compétences en langue, qui sont reconnus par le cadre européen. Et grâce à ce diplôme-là également, ils intègrent l'histoire de la langue des signes. Donc c'est pour ça que ça me permet aussi d'avoir un petit peu plus d'aisance pour pouvoir vous en parler ce soir. J'ai également longtemps travaillé pour différentes associations, soit dans l'intégration et l'éducation des déficients auditifs, et que ça soit également pour la partie sociale, donc en MDPH, Maison départementale personnes handicapées, où j'ai été en tant que travailleur social bilingue, français et français langue des signes pour les personnes sourdes. Donc je connais leur histoire du passé, mais également aujourd'hui le côté accessibilité, intégration, exclusion, handicap, etc. Et tout ce que la surdité peut engendrer au quotidien. J'attire quand même l'attention sur une chose que je n'ai pour le coup pas la prétention effectivement d'être un porte-parole de la LSF et encore moins pour la communauté sourde. Hein. Je pense qu'ils sont largement mieux placés que moi pour le faire et légitime. Surtout que voilà, il y a quand même une certaine expérience amère qui est toujours ressentie aujourd'hui, alors que ça date quand même de 1880 de ce que je vais vous parler. Sans trop le dire encore un instant pour ne pas spoiler non plus, mais on va dire que je suis surtout un utilisateur averti. En tout cas, s'il y a des erreurs ou autres, hein, je m'en excuse par avance, mais normalement, il n'y a pas de raison. Et de toute façon, je pense que la communauté, elle sait aller vérifier des sources. Et au contraire, si vous pensez qu'il y a une erreur, n'hésitez pas à me le dire et on pourra en discuter. Donc, j'ai organisé un petit peu cette soirée sur l'histoire de la langue des signes française. J'entends pas. L'histoire de la langue des signes française et sa communauté d'hier à aujourd'hui, plus particulièrement donc de 1700 à 1880, avec des dates clés qui sont bien plus tardives que 1880. Langage des signes ou langue des signes, en 2005, il s'est passé quoi? La surdité, c'est quoi? Malentendant, sourd, sourd-muet? Un sourd peut-il parler? Réparer les sourds au détriment d'une communauté, une vraie prouesse technique? Intégration, inclusion, le handicap pour qui? Les entendants ou les sourds? Ce serait éventuellement un petit débat ou un point de vue qu'on pourrait éventuellement faire. Je vais également vous parler un petit peu connaître et où travailler avec la langue des signes, qu'est-ce qu'un café signe, et puis des questions et réponses ou débats sur ce qui aura été dit, et je vous propose, en dehors du livre blanc, pour que ce soit plus facile, puisque là, c'est enregistré, éventuellement une initiation à la LSF, et puis des partages littérature, films, reportages sur la langue des signes et la communauté sourde. Donc, l'histoire de la langue des signes française et sa communauté d'hier à aujourd'hui. Je vais vous présenter donc cette partie-là qui est de 1700 à 1880. Bien que il y ait eu au Moyen Âge une grande période où on a quand même des traces de l'histoire des sourds, mais il faut savoir que bon déjà le Moyen Âge c'est plus de 1000 ans de processus, hein, mais c'est également 1000 ans qui ont fait émerger la communauté sourde. Mais par contre cette période-là déjà elle est trop longue et je vais vous partager tout de suite dans le chat. Que vous irez voir si vous voulez une conférence interprétée en langue des signes française, mais interprétée à l'oral en français sur cette période-là précisément. Donc pourquoi j'ai choisi 1700 et 1880 ? Donc c'est là en gros la première partie de cette date-là. C'est on observe donc une évolution du monde des sourds. On parle de découverte, mais moi je vais plutôt parler de redécouverte de la communication qu'on appelle gestuelle et des créations des écoles spécialisées pour les sourds. Et en deuxième partie de ces dates-là, où les entendants ils vont interdire la langue des signes française. En conséquence, un appauvrissement de la langue, de son utilisation, même s'il faut savoir qu'il l'utilisait quand même de manière discrète. Mais voilà, une langue qui est interdite à un moment ou à un autre, ça appauvrit de toute façon. Donc, un premier personnage qui est incontournable dans l'histoire des sourds, c'est l'abbé de l'Épée. Donc là, il est né donc, en 1712 et mort en 1789. L'abbé de l'Épée, on pense effectivement à tort que c'est le créateur de la langue des signes, même si effectivement c'est lui qui a relancé l'émergence de cette langue et de sa communauté et donc de sa reconnaissance. C'est pas forcément lui qui a créé la langue des signes, puisque de toute façon, on n'est pas une seule personne à créer une langue de toute manière. L'abbé de l'Épée, pour la petite histoire, peut-être qu'il y en a qui doivent connaître, l'histoire des jumelles. Donc entre 1760 et 62, l'abbé de l'Épée, donc il surprend donc deux sœurs sourdes qui communiquent. Alors là, il parle de langue des signes, mais on va plutôt parler de code entre elles. Et c'est à partir de là que il a voulu étudier en fait leur langue. Et c'est grâce à cet engouement qu'il a eu, qu'il a créé, donc il a transformé en gros sa maison en école ouverte à tous les sourds et de pouvoir mettre au point avec eux un alphabet. Alors à la base, à deux mains, alors qu'aujourd'hui, un alphabet, par exemple, ce serait ce qu'on appelle la dactylologie, on n'utilise plus qu'une seule main. Donc officiellement, 1760, c'est la première école avec des cours en langue des signes. Un petit point important quand même, faut savoir que pendant cette période-là, les personnes sourdes étaient prises pour des gens arriérés, imbéciles, des sauvages. Et on parlait également de langue des singes. Effectivement, c'est beaucoup de gestuels avec des visages très expressifs, iconiques. Effectivement, c'est quelque chose qui peut surprendre. Et puis, voilà. Donc, langue des singes, même encore aujourd'hui, vous dites un sourd, langue des singes, c'est très fort encore comme mot. En 1789, donc il décède, mais à partir de ce moment-là, en sachant que c'était une personne très riche, sa maison est devenue une école donc spécialisée pour les sourds, de un peu plus de 100 élèves, donc ça reste quand même important, hein, en sachant que voilà, c'était vraiment les tout débuts d'une école en langue des signes. Petite info comme ça, 1791, l'Assemblée nationale promulgue une loi qui permet aux sourds de bénéficier des droits de l'homme. Donc ça veut dire 2 ans après la première date de publication de la déclaration. Donc ça veut dire pendant 2 ans, ils n'étaient même pas, ils n'en faisaient pas partie. Voilà, donc c'est quand même une chose à noter. Anodin, c'est 2 ans, c'est pas anodin. Attends, petite question peut-être, lanterne.
Ouais, lanterne, c'était une question, vas-y.
Attends, le catch, il écrit.
Ah oui. Alors, lanterne, on voit ton micro qui s'active, mais on n'entend rien. On ne t'entend pas, lanterne.
Ok, donc troisième tentative.
Je t'entends de très très loin.
Oh, oui. Putain de...
Là, c'est mieux.
Je vais monter le ton de son.
Ouais.
Là, c'est mieux.
Ouais.
Allez, ça ira.
Ok, super, super. Donc du coup, la Déclaration des droits de l'homme dans sa première version, elle exclut spécifiquement les sourds et les personnes handicapées, ou c'est en sous-main, c'est en termes de tradition dans la société, on considère pas les sourds comme ou les personnes souffrant d'autres handicaps comme des hommes.
Elle ne l'excluait pas par un texte en particulier, mais elle n'était pas du tout présente. Voilà. Alors que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je veux dire, donc il y a la baie de l'épée et il y en a un autre qui arrive un peu plus tard là dans la soirée. Là, j'ai pas l'info, mais qui ont participé à ce que ça puisse être intégré. Voilà. Donc il n'était pas exclu par une loi en particulier ou un point en particulier, mais il n'était pas du tout intégré. Voilà. Est-ce que j'ai répondu ?
Oui, en effet, je t'en remercie.
Merci. Alors, maintenant, je vais vous parler du premier directeur de l'école de la paix de l'épée. Roche-Ambroise Sicard, donc dit l'abbé Sicard. Donc c'est le premier directeur de cette école qui changera de nom et qui deviendra l'Institution nationale des sourds muets, qui d'ailleurs a été choisi. Cette personne a été choisie puisque l'abbé Sicard en fait était déjà un élève, avait un élève qui s'appelait Jean Massieu. Qui lui-même aura été le deuxième enseignant de l'Institut National des Jeunes Sourds, qui existe toujours d'ailleurs, puis directeur des écoles de sourds à Rodez et à Lille. Donc voilà, c'est quand même un grand premier personnage très, très important, l'abbé Sicard. Faut savoir que l'abbé Sicard, c'est lui qui instaure pour la première fois l'éducation bilingue, donc français et langue des signes française, donc au sens de bilinguisme pour un sourd. Je ne parle pas de la méthode orale, on en reparlera, la méthode oraliste, on en reparlera un peu plus tard. Le bilinguisme pour l'abbé Sicard, c'est de pouvoir permettre aux sourds de pouvoir communiquer à la fois en langue des signes, mais en français écrit, qui est pour le coup deux langues totalement différentes. Donc ça c'est vraiment l'un des, ça c'est très fondateur de l'évolution des sourds et de d'accessibilité aussi pour eux, pour l'intégration également, pour savoir lire et écrire. Ensuite, j'ai envie de vous parler également de Laurent Clerc. Alors il est très peu connu en France. Donc là, c'est 1780, il est né en 1785 et mort en 1864. Donc il faut savoir qu'en 1797, il a été donc élève de l'Institut de Paris. Et c'est lui qui a appris la langue des signes aux États-Unis. Et qui est en plus à l'origine d'une université des sourds qui s'appelle Gallaudet, qui est toujours présente aujourd'hui. C'est une... Elle est située donc à Washington et c'est la seule université au monde dans laquelle tous les programmes sont spécifiquement conçus pour les sourds et malentendants. C'est la seule. Même en France, ça n'existe pas. C'est la seule. Voilà. Donc, on a encore du chemin à faire, même en France. Et c'est à partir de 1878 où là, ça commence un petit peu à être compliqué pour cette communauté. Donc, en mars 1878, premier congrès des entendants pro-oralistes à Paris, pour parler donc de l'intégration des sourds dans la société à part entière. Et en, je crois que ça, je sais plus en, précisément la date, mais c'est en 1880 qu'il y a eu un congrès à Milan, donc le congrès de Milan. En sachant que, entre-temps, il y a eu cette période-là avec un courant oraliste qui pense que les sourds doivent apprendre à parler pour s'intégrer dans la société. Et en sachant que l'immense majorité des participants étaient des entendants pro-oralistes qui ont décrété que la méthode orale pure était donc préférée. Et donc, l'interdiction de la langue des signes française. Quelles sont les raisons ? Pour eux, la langue des signes n'était pas une vraie langue. Ne permettait pas également de parler à Dieu. Sachant qu'à cette période-là, c'était très ancré quand même. Et encore une chose assez farfelue, hein, mais bon, voilà. Les signes empêchent les sourds, ou empêchaient de pouvoir bien respirer, et ce qui favorisait la tuberculose. Voilà. Bien entendu, conséquences dramatiques pour les sourds, en sachant que cette interdiction a été, elle a duré 100 ans. Donc elle a été totalement proscrite, même dans les instituts de sourds qui étaient toujours en place, eh bien, il fallait que les gens signent en cachette et apprennent à parler. Et c'est là que la langue des signes s'est drastiquement appauvrie. Petit point sur le congrès en lui-même. Là, j'ai un anti-sèche, hein, parce que je n'ai pas tous les chiffres en tête. Il faut savoir qu'il y avait 157 Italiens, 67 Français, 12 Anglais, 8 Allemands, 6 Américains, un Belge, un Canadien, un Norvégien, un Russe, un Suédois. Et pour couronner le tout, seulement 3 sourds, avec aucun interprète pour eux, qui ont donc décidé du sort de la langue des signes française en France. Avec donc 225 membres complets du congrès pour seulement 3 sourds représentés et qui en plus n'avaient pas accès aux échanges. Donc 100 ans très, très appauvris de cette langue, qui d'ailleurs même encore aujourd'hui, bien après 100 ans, hein, parce que du coup ça va jusqu'en 1980, c'est encore très amer. Il y a eu ensuite une période après 100 ans qui s'appelle donc le réveil des sourds. Donc en fait, ça fait référence en fait, si vous voulez, à un renouveau en fait de cette culture-là, en sachant que bien entendu avant 1980, on réutilisait progressivement cette langue, mais elle était toujours interdite en France. Et donc, je reviens effectivement à l'IVT, donc l'International Visual Theatre, qui à la base a été créé par Jean Grémion et Alfredo de Corrado, donc en 1976, qui a fortement participé à cette requalification de langue des signes grâce à la culture, à des recherches politiques, linguistiques, pédagogiques, mais également à la promotion de cette langue et promotion de cette langue par le biais de cours dédiés à des entendants. Donc c'est grâce en partie à ce premier travail-là que la langue des signes a pu ensuite être remise au goût du jour auprès des politiques pour pouvoir la faire promouvoir et la faire reconnaître en tant que langue à part entière. Bien entendu, il y a eu d'autres associations qui ont vu le jour et qui existent toujours, qui font un grand travail là-dessus. Et d'ailleurs, plutôt que de rallonger encore cette histoire-là ce soir avec vous, je vous propose carrément d'aller voir un film qui s'appelle « J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd », donc de Laetitia Carton, qui, juste pour l'histoire un peu, donc c'est un film sur son ami sourd qui est mort très jeune, mais qui lui avait fait découvrir la langue des signes, sa propre culture, le monde des sourds, et en gros, elle a fait pendant 10 ans un reportage film sur l'évolution de la langue des signes, et il parle du réveil des sourds, il parle de la méthode orale, la méthode bilingue, etc. Et ça, c'est un très très beau film, très intéressant, je vous propose. Je savais même pas qu'elle était interdite pour des raisons spirituelles. C'est très particulier. Donc même encore aujourd'hui, les sourds sont très encore en colère à ça. Ah ben voilà, c'est ça. J'avancerai avec toi, les yeux d'un sourd. Et d'ailleurs, la photo que j'ai partagée au début de Levan Biscardes. Et d'ailleurs, il apparaît dans ce film qui est magnifique. Voilà, exactement. C'est un grand monsieur, ça. Je l'ai rencontré en vrai, c'est un très grand monsieur. Alors, une autre date, histoire de faire cours d'histoire. 1976. C'est la première fois depuis le congrès de Milan, que je rappelle, donc 1880, un décret paru au journal officiel qui autorise les sourds à postuler à des postes d'enseignants. Bien entendu, ils doivent avoir la spécialité, certificat d'aptitude en question pour la langue des signes. Donc, je veux dire, 1976, c'est pas si vieux que ça. En sachant que la langue des signes n'était toujours pas autorisée, officiellement et inscrite officiellement comme une langue à part entière. Et c'est là que la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure, langage des signes ou langue des signes, en 2005, donc là c'est une source que je vais vous partager tout de suite. Hop. C'est une source de la FNSF, Fédération nationale des sourds de France, qui parle donc effectivement de la loi du 11 février 2005 qui a officiellement reconnu comme la LSF comme linguistiquement légale et comme langue d'enseignement des sourds français. 2005, c'est hier. C'est hier. Donc aujourd'hui, un sourd, on lui parle de langage, alors qu'il a longuement travaillé pour faire reconnaître sa langue. C'est très frustrant. Donc aujourd'hui, on ne fera plus la faute, c'est bien langue des signes. C'est pour ça que c'est important de connaître toute l'histoire pour en comprendre vraiment toute l'envergure de ce mot qui peut-être pourrait paraître pas grand-chose, mais c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. Il y a également de cette même loi de 2005 qui, à la base, est une loi pour l'égalité des droits et des chances. On pourrait éventuellement revenir sur égalité des droits et des chances. Sur l'accessibilité, l'intégration des personnes sourdes. Ça, on pourrait éventuellement faire un petit débat là-dessus, voir peut-être qu'est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez un petit peu ce qui se fait en termes d'accessibilité, est-ce que ça l'est réellement, est-ce que les gens connaissent réellement les outils mis en œuvre pour l'accessibilité. Est-ce qu'on ne ferait pas un tout petit débat vite fait sur ça, éventuellement ?
Ouais, si tu veux.
Parce que ça, je pense que là, il peut y avoir de matières à répondre si éventuellement je n'ai pas pensé à quelque chose au moment où j'ai préparé ce livre blanc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pas sur le handicap en général, on va essayer de rentrer sur vraiment de ce focus sur la langue des signes. Par exemple, est-ce qu'à la télé, Vous pensez que c'est suffisamment accessible, par exemple? Il faut qu'il y en ait un premier qui commence à poser la... à se lancer pour que ça puisse ouvrir éventuellement le sujet.
Allez, moi je me lance. Typiquement, non, je trouve pas que c'est très représenté, si ce n'est que de plus en plus. Pour les infos, il y a une traductrice ou un traducteur langue des signes en bas à droite de l'écran, des fois. Mais autrement, ce que je constate, c'est que les gens la prennent par, entre guillemets, nécessité, parce qu'ils ont des connaissances sourdes et muettes ou malentendantes. Mais autrement, il c'est pas tant mis en avant ou incité. Quoi. Voilà.
Tu me parles de donc l'interprète qui est dans un médaillon, en fait.
Oui.
Est-ce que tu as vu la taille de ce tout petit médaillon?
Ah ben oui, c'est petit.
C'est très petit. Et en tant qu'utilisateur de la langue des signes, effectivement, c'est très compliqué. Soit d'avoir un écran plasma de 800 cm de diagonale. Dans certains pays, là, j'en ai pas en tête. Il faut que j'aille le revérifier, mais vous cherchez interprète dans les autres langues, dans d'autres pays. Il y a des options qui permettent de couper soit un tiers, deux tiers la télé avec les infos et un interprète en bonne et due forme. Soit carrément moitié-moitié. Effectivement, là, il y a... Parce que, effectivement, si on est jeune, on peut le lire facilement, mais une personne un peu plus âgée, ça peut être plus compliqué. Voilà. Et tout n'est pas forcément traduit. Lanterne, tu as une question?
Oui, avec peut-être la progression de la... avec la progression de la traduction et du sous-titrage, est-ce qu'il n'y a pas une... Est-ce que les sourds et malentendants sont pas ont pas justement voient pas justement des améliorations de leurs conditions, parce que je sais pas où on en est au niveau de on parlait tout à l'heure de l'écriture et de la lecture, de l'intégration de l'écriture et de la lecture pour des sourds et malentendants. Est-ce que la traduction c'est une solution viable pour les sourds et malentendants? Alors pour la langue des signes, on est d'accord que dans la rue on va pas commencer à mettre des sous-titres en dessous de soi, quoique ce serait très classe.
Bien sûr.
Est-ce que le sous-titrage peut être une option, une solution pour les sourds et malentendants?
Oui, c'est une très bonne question, et c'est vrai que du coup j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Désolé, du coup je vais répondre à celle-là parce que je l'ai en tête. Le sous-titrage, c'est une très bonne chose. Il faut savoir qu'elle a été améliorée. Cet outil a été amélioré parce que couper la télé, le son, regarder les informations, mettez le sous-titrage, vous allez voir qu'il manque déjà beaucoup d'informations. C'est pas toujours français, donc c'est là qu'intervient la vélotypie. Donc, par exemple, pour revenir un peu aussi sur la question d'Ovakin, sur le président quand il s'exprime, il y a la traduction en vélotypie, donc c'est-à-dire qu'il y a une personne derrière qui fait de la transcription directe en écrit. Et l'interprète. Mais il y a également une chose à ne pas oublier, que la génération qui ont eu l'impact de l'interdiction de la langue des signes, ils n'avaient également pas accès à une scolarité classique. Donc ça veut dire que un sourd d'une certaine génération ont d'énormes difficultés à l'écriture et à la compréhension de la lecture, écriture. Donc un sous-titrage est une des premières solutions, mais ce n'est pas la solution. Y compris la langue des signes n'est pas un sourd ou même un malentendant, on va dire un peu plus profond, n'a pas forcément la langue des signes, ne connaît même pas forcément sa propre langue. Voilà. Donc il n'y a pas qu'une seule solution. Il y en a bien plusieurs qui pas commencent. Et d'ailleurs, ça y est, ça me revient. Faut savoir que il y a un journal uniquement en langue des signes qui propose toutes les solutions. Et ça va pas me revenir. Ça s'appelle, j'ai oublié le nom. C'est quand même grave. C'est le seul Mediapi, donc PI. C'est une personne. Qui a créé ce média-là par le fait que quand il y a eu les attentats à Paris, les sourds n'ont pas su tout de suite ce qui s'était passé. Et c'est à partir de là que les sources se sont mises en colère et ont dit, nous, on veut avoir l'accessibilité. Donc, il y a eu effectivement Mediapi qui s'est créé, mais où des sourds ont fait remonter au comment on appelle ça, entre guillemets, le chef de la télé, j'ai plus le nom, qui, pour dire, attendez, nous, on est des Français à part entière, on a notre langue, certes, mais on veut aussi avoir cette accessibilité-là par la télé. Et c'est grâce à cette période-là, très tragique, mais ça a participé à l'évolution et la généralisation des sous-titrages plus de manière plus professionnelle et avec systématiquement un interprète quand c'est le président qui parle, mais ça devrait être pas forcément là. Que là, en tout cas. Est-ce que j'ai raté des questions? La vélotypine, transcription directe, bien compris. Question des évolutions sur l'IA, sur la traduction automatique. Waouh! Je ne suis pas assez au courant de ça, en sachant que pour la vélotypie, ce sont quand même des professionnels de bac plus 5. Il faut 5 ans d'études pour avoir cette maîtrise-là. Alors, ça paraît fou comme ça, de se dire j'écoute et je retranscris. Ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, quitte à aller voir peut-être des reportages pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est même déjà, c'est pas un clavier en AZERTY comme nous. C'est par syllabe, etc. Donc, déjà, rien que l'outil en lui-même est extrêmement complexe. Mais d'ailleurs, je crois qu'à la télé, ils en avaient parlé, où ils l'avaient utilisé pour la première fois quand le président Macron avait parlé de la vélo. Vous avez parlé avec la vélotypie, pardon. Ils ont fait un petit reportage dessus parce qu'il y a eu des premiers bugs un petit peu et les gens se sont moqués éventuellement de sa prestation à la pauvre personne. La première fois qu'elle fait ça, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est le bon expérimentation de la double vélotypie en France, c'est ça. Est-ce qu'il y a une autre question? Les sous-titres sont hyper rapides, les allocutions Macron diffusées en direct sont appelées en vélotypeur. Oui, c'est ça. Mais même, il faut avoir une sacrée vitesse de lecture. Voilà. Donc voilà, c'est pas la seule, ce ne serait pas éventuellement le sous-titrage, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Du coup, voilà, je ne sais pas si vous avez éventuellement d'autres questions, débats. Peut-être, je ne sais pas quel style de question je pourrais éventuellement. Lanterne.
Yep, tu dis que la vélotypie, pour devenir vélotypeur, c'est 5 ans d'études, mais c'est un cursus entier de 5 ans ou genre c'est 3 ans de communication ou de linguistique et ensuite 2 ans de master ou quelque chose,
C'est ça, en fait, c'est licence pour tout ce qui est linguistique, etc. Et puis les 2 ans de formation supplémentaire pour arriver au master, mais pour la partie, si j'ose dire, technique de la vélotypie en elle-même. C'est pas un exercice pour le coup, mais y compris un interprète en langue des signes française, c'est pareil. Hein. Il a une première licence et 2 ans de spécialisation en langue des signes sur purement de la traduction. Les 3 premières années, c'est toute la partie linguistique, connaissance de la langue. Et ensuite, 2 ans spécifiques, tout en renforçant également son vocabulaire, etc., et son aisance. Mais c'est purement de la technique, parce que c'est quand même très impressionnant de parler la même langue. Je veux dire, on entend en français quelqu'un qui nous parle en français, on retraduit en langue des signes française. Donc ça veut dire qu'on a un décalage de quelques secondes entre comprendre ce que la personne est en train de dire, l'analyser dans la tête et le ressortir en langue des signes, et inversement. Une personne sourde qui nous parle en langue des signes où on comprend, où il faut, entre guillemets, répéter ce que la personne dit. C'est même pas entre guillemets, pardon, c'est répéter vraiment dans le bon sens de ce que la personne a voulu dire. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. Dans le cursus, par exemple, que j'ai fait, qui n'est pas du même niveau qu'interprète, hein, on nous initie à cette méthode-là. Les 5 ans, ils ne sont pas de trop. Déjà, de toute manière, pour maîtriser réellement une langue comme la langue des signes, c'est bien 3 ans au quotidien. pour vraiment avoir une vraie maîtrise de la langue, pour ensuite continuer le cursus universitaire éventuel sur l'interprétariat. Alors, quel était le sort avant que ce soit diffusé? Attends, LDS. Comment les parents s'entendaient-ils avec eux avant le livre, relatant leur histoire? Il y a des livres, effectivement, que je n'ai pas. Il existe effectivement beaucoup de parents, même encore aujourd'hui, qui, ne, par exemple, d'enfants sourds, d'un couple entendant et d'enfants sourds, avec enfants sourds, qui ne connaissent pas la langue. Oui, donc ça arrive même encore aujourd'hui. Ça commence à évoluer grâce à la MDPH, où il y a des fonds qui sont dédiés à la formation, qui sont totalement payés, financés pour les parents. Mais il faut déjà aussi que les parents veuillent le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Ou apprendre la langue des signes. Déjà, pour tout ce qui est Paris, couronne de Paris, ce serait l'IVT. Mais dans pas mal de CCAS, donc dans les mairies, ils proposent également des formations aussi en langue des signes. Vous tapez « formation en langue des signes ». Par contre, il faut que vous vérifiez bien que ce soit certifié. Parce que des gens qui n'ont pas de réel diplôme se disent formateurs de langue des signes. Non, non. Surtout que si vous avez également un vrai projet professionnel, par exemple, soit parce que vous êtes vous-même touché par une perte d'audition, soit par la famille, ou un vrai projet professionnel, c'est des choses qui peuvent être financées. Après, sinon, bon, ben, voilà, une formation complète, si on devait le faire complètement, ben, voilà, pour aller jusqu'au bout de la formation, donc jusqu'au niveau B2.6, ça tourne aux alentours de entre 2 3 000 euros. Mais c'est sur une année complète, voilà, si vraiment vous voulez le faire. Les évolutions technologiques, appareils auditifs. Alors justement, je vais en parler juste après, en fait, de ça. Et je vais juste vous envoyer le PDF en question pour pouvoir vous expliquer un petit peu cette partie-là. Question, est-ce que particulièrement difficile pour les sourds muets de naissance d'apprendre à lire et écrire ? Oui, c'est particulièrement compliqué puisqu'il faut avoir uniquement une mémoire visuelle. Il y en a qui ont une mémoire auditive. Là, c'est purement, c'est purement j'ai perdu le fil, c'est pour ça que je bégaye. Une mémoire visuelle, pardon. Par contre, juste, je reprends sur le sourd-muet. En fait, effectivement, on a parlé au tout début dans l'histoire de sourd-muet. Effectivement, un sourd n'est pas forcément muet. Parce qu'un muet, c'est l'absence totale de possibilité ou capacité de pouvoir émettre un son. Le fait de ne pas réussir à faire des phrases ne veut pas forcément dire qu'une personne est muette. C'est juste voilà, pour apporter cette petite précision. La MDPH, ils sont à sec en ce moment, et c'est pas depuis que ça date déjà. C'est vrai que la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, sachant qu'il n'y a pas que il y a pas que le côté accessibilité, il y a vraiment plein de choses qui rentrent en compte. C'est pas que des allocations, c'est également des financements pour des scolarités spécifiques. Enfin, c'est la MDPH, oui, ils sont dans le mal, oui, clairement. Il y a un budget très très restreint et de plus en plus restreint, mais également, il faut savoir que pour une personne qui veut faire simplement un premier dossier, tout handicap confondu, c'est plus de 8 mois d'attente avant d'avoir une première réponse. Donc déjà, rien que ça, ça limite pas mal de choses, et effectivement, sur le côté de la réelle intégration, l'inclusion, la réelle égalité des chances. Est-ce qu'on peut réellement dire qu'on est égaux par rapport à ça ? C'est un long sujet, c'est un très long sujet. Tu parles là ensuite après de l'enfance d'Hélène Keller. D'ailleurs, il faudra que je vous partage un lien éventuel de pouvoir le visionner. Je l'ai, mais après, pour le partager, c'est un peu plus délicat. Pour avoir des aides pour des enfants dyslexie, dysorthographique ou atteint de TDAH, c'est déjà un calvaire. Oui, voilà, déjà de base. C'est quoi la différence entre sténotypiste et un vélotypiste? Ah, je ne sais pas. La différence entre un sténotypiste et un vélotypiste, je ne sais pas. Je connais que vélotypiste, je ne sais pas. Mistake, pourquoi les parents ne veulent pas apprendre à signer? Pour en avoir rencontré plusieurs, des cas bien différents entre ceux qui veulent réellement le faire et d'autres non, on repart éventuellement sur la fameuse méthode oraliste. C'est au sourd qui est handicapé de s'intégrer dans le monde des entendants. Donc ça, oui, je l'ai déjà entendu. Ça surprend. Après, voilà, j'étais pas là pour juger les parents à ce moment-là. Est-ce qu'ils sont également peut-être pas encore accepté la situation de leur enfant? Tout ça rentre en compte, ça rentre en jeu. Et également le fait de se dire, voilà, c'est quand même une langue compliquée, etc., etc. Sans forcément penser que c'est aussi très compliqué pour un sourd. C'est possible, même de manière extrêmement compréhensible, intelligible, de pouvoir qu'une personne sourde puisse parler. Mais ça va dépendre. Souvent, il faut une vingtaine d'années derrière d'orthophonie pour avoir une réelle maîtrise de sa langue parlée alors qu'on est sourd, soit de naissance, soit en cours de la vie de la personne. Ça, c'était une... Attends, manque de... Attends, je... J'ai pas compris la question.
Non, je cherche pas, c'est une blague.
Ah, c'est un genre de mot peut-être.
Oui, c'est parce que ça, pourquoi ils veulent pas apprendre à signer, parce qu'ils ont pas de stylo.
Voilà. Ah, d'accord. Ah, moi, j'étais tellement dedans que je sais pas.
Et du coup, je voulais juste, si je peux me permettre.
Oui.
Je voulais juste faire remonter, alors déjà une petite observation sur le concept d'égalité des chances pour des sourds muets. On revient sur les mêmes problèmes que pour l'intégration de différentes ethnies, pour les intégrations de n'importe quel handicapé. C'est qu'on peut pas avoir une égalité parce que déjà biologiquement, biologiquement, culturellement, socialement, il y a des inégalités. Donc il faudrait plutôt parler d'équité et de voir les manières de... Enfin, les manières de contrebalancer ça, c'est juste une histoire de termes, mais on a une devise nationale qui est pas adaptée de égalité, liberté, égalité, fraternité, c'est pas possible. L'égalité est impossible, ce qu'il faut c'est l'équité. Et je voudrais juste faire remonter une petite question.
Oui.
Question alors de Snow qui disait, question peut-être un peu bête, est-ce particulièrement difficile pour les sourds muets ou sourds de naissance d'apprendre à lire et à écrire?
Ah, j'ai répondu déjà à cette question.
Bon, ok, donc je vais me réveiller, et puis on se dit à tout de suite.
En fait, si tu veux, c'est particulièrement compliqué, je vais redire, si tu veux, il n'y a pas de souci, c'est particulièrement plus compliqué, en sachant que...
Non, mais vous en faites pas, j'avais entendu votre réponse dès que vous l'avez formulée au début, voilà, okay. Merci beaucoup.
C'est juste moi qui dors, en fait.
Merci.
Voilà, il y en a qui suivent alors.
Merci.
Ah, super, super. Moi, je fais des blagues.
Non, mais tout va bien, au contraire. Malgré tout, le monde ne possède plus d'être appareillé par qui. Alors, du coup, ce que je vais faire, peut-être. Mais par contre, juste dernière petite chose, je reviens sur le côté que tu as parlé de l'équité. C'est très bien, effectivement. Et même là, le fait, tu vois, que je parle, effectivement, est-ce qu'il y a une réelle intégration, une réelle. Un réel équilibre de ce qu'on voudrait. C'est là l'idée de ce soir n'est pas de dire qui a raison ou qui a tort de toute façon, mais le fait d'en parler, c'est d'en avoir au moins conscience que c'est comme ça. Également, d'ouvrir forcément un débat sur ce sujet-là pour en avoir au moins la connaissance. Voilà. Après, bien sûr, ça ne se fait pas de toute façon. On aurait beau mettre toutes les lois en question. Du jour au lendemain, ce serait de toute façon très long à mettre en place, de toute façon. Voilà, donc voilà. Mais l'idéal, c'est d'en avoir conscience et d'être un citoyen éclairé, alors certes que sur cette partie-là, mais qui de toute façon peut être reporté sur tout type de handicap. Je vous envoie donc... Alors, je m'excuse par avance sur ce document que je vous envoie. Je suis désolé, c'est un PDF. Mais Il y a éventuellement des fautes d'orthographe, puisque c'est un document qui date un petit peu, que j'avais fait il y a un certain temps. Mais bon, ça va, vu que ce sera enregistré en vocal, on ne verra pas les fautes. Alors, je laisse tout le monde arriver sur ce PDF. Et donc, là, ça va répondre à la question, la surdité, c'est quoi ? Malentendant, sourd, sourd-muet, un sourd peut parler ? Et l'oralisation dans tout ça, les outils mis à disposition, etc. Et de toute façon, on en a déjà parlé, donc MDPH, inégalité, etc. Et ça va répondre également, réparer, ça serait également aussi un point de vue débat, mais peut-être on pourra le reporter un peu, puisqu'on a déjà bien débattu là. Réparer les sourds au détriment d'une communauté, ou vraie prouesse technique ? J'ai volontairement posé cette question-là, puisqu'il y a des sourds qui ne souhaitent pas être réparés, entre guillemets, puisque c'est leur communauté, ils ne veulent pas forcément être entendants, ou du moins entendants. Une personne malentendante peut avoir des améliorations, mais une personne relativement sourde à sourd au profond, mettre un appareil, ça ne le répare pas forcément. J'ai commencé, donc pour ceux qui sont sur le document, à la limite, de toute façon, je vais quand même le lire, comme ça, pour les auditeurs de plus tard, quand ils réécouteront ce podcast. Donc, une langue vivante reconnue en France comme une langue à part entière depuis 2005. Ce document a pour objectif de promouvoir la langue des signes française, mais également de sensibiliser sur la surdité et son impact. Le terme surdité sera employé qu'une seule fois pour des raisons d'identité. Une personne malgré sa différence, c'est un être humain et non pas avec une étiquette handicap. C'est pour ça que je parle vraiment sur cette phrase, est-ce qu'on veut être réparé ou pas, handicap ou pas. Également, le texte de loi de 2005, qui est quand même assez important sur ce que constitue un handicap. Le traumatisme en souris par l'assurance maladie. Attends, je reviendrai juste. Transhumanisme, pardon, excuse-moi, j'avais lu traumatisme. Le transhumanisme sponsorisé par l'assurance maladie. Oula. Là, c'est un sujet. Oui. On peut voir, à la limite, on va en parler au moment où il y aura l'implant cochléaire. Donc, constituer un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement ou par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidante. La situation de handicap est une limitation à la suite d'un manque d'accessibilité ou d'adaptation. Exemple, vous allez dans un pays étranger, vous ne parlez pas la langue native du pays, vous êtes en situation de handicap. On a bien fait la distinction entre le handicap et être en situation de handicap. Donc, en gros, hein, comme j'ai marqué, mot-clé, accessibilité égale suppression partielle ou totale de la situation de handicap. On arrive, pour une personne sourde, dans une conférence où il y a un interprète en langue des signes, on supprime partiellement ou totalement la situation de handicap. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu plus. Les applications telles que Helix, c'est un dictionnaire qui, à la base, un dictionnaire sur mobile ou Internet, qui, à la base, est parti d'un jeu. Un jeu de cartes pour apprendre la langue des signes. Et en fin de compte, c'était une application qui pouvait être. On pouvait rajouter des signes. Des propositions de signes pour du vocabulaire. Et en fin de compte, il y a énormément de gens qui se sont accaparés de cette... qui sont jetés sur cette application-là, puisque c'est allé très vite. On s'est retrouvé avec énormément de ressources et c'en est devenu un des meilleurs dictionnaires français pour le côté mobile, qu'on soit sur le mobile ou sur Internet. Il reste effectivement toujours des dictionnaires de poche. Donc effectivement, ce sera un peu différent des nôtres, des dictionnaires. Il faut bien des images pour expliquer. Et je vous en ai partagé un qui est vraiment exceptionnel, celui-ci, là, le poche, qui s'appelle de l'IVT. Il est vraiment, celui-là, vous pouvez y aller les yeux fermés, et il n'est pas très cher. Alors, pas très cher, il reste quand même 26 euros. mais c'est l'un des plus complets. Pour parler un petit peu plus loin dans ce qu'est déjà la surdité ou même tout court, hein, le son, c'est des fréquences en Hertz. En Hertz, donc, par exemple, 125 Hertz est le son le plus grave. Et donc, plus le chiffre est haut, par exemple 6000 Hertz, c'est un son aigu. Là, je vous ai mis une image qui parle un petit peu donc par rapport aux différents âges, quels seraient éventuellement les décibels qu'on perd éventuellement ou qu'on perd de toute façon au fil de l'âge, pour vous donner un petit ordre d'idée éventuellement si un jour vous allez faire un audiogramme chez un ORL. Là, je vous parle là effectivement là d'une perte supérieure par exemple à 110 décibels, c'est ce qu'on appelle une cophose, donc une perte totale du son. Au-delà de 110 décibels, de toute façon, de perte de 110 décibels, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus rien du tout. Et là, je vous parle, donc voilà, audition normale, perte inférieure à 20 décibels. Donc en soi, c'est des bruits comme des gens quand on va chuchoter, même un peu entre 20 et 40 décibels, c'est voilà, certaines syllabes chuchotées. Et c'est là, à partir de entre 20 et 40% de perte, on commence à avoir des gènes dans la compréhension orale. Et ensuite, à partir de 40 décibels, c'est à partir de là, alors ça va dépendre de certains départements, mais entre 30 et 40% de perte, enfin 40 décibels, c'est à partir de là où on peut avoir effectivement une reconnaissance auprès de la MDPH, que ce soit pour avoir des prothèses auditives ou d'autres systèmes éventuels, que ce soit aussi un accompagnement, prise de notes pour aller en cours, etc. Ensuite, ça va de 70 jusqu'à 90%, enfin 90 dB, donc c'est vraiment des déficiences profondes. Et là, effectivement, là juste à droite, quand on voit par exemple une musique forte, il faut savoir par exemple en boîte de nuit, en France, on n'a pas le droit de dépasser les 110 décibels sur un certain nombre de temps. Sachez que 110 décibels, vous avez vu, en boîte de nuit, ça arrache les oreilles. Et bien ça, un sourd ne l'entendrait que comme s'il en chuchotait derrière lui. Voilà. C'est là qu'on parle un petit peu de la technique, donc des différentes prothèses auditives. Donc il y en a trois là qui sont présentées. Alors il y en a des différentes, mais qui aujourd'hui sont relativement, on va dire, caduques, puisque aujourd'hui on a plus forcément besoin de passer par des prothèses auditives osseuses. Mais là on va partir de ces trois prothèses auditives. Donc la première à tout à gauche, c'est simplement comme une oreillette, comme si on était à la télé. Un autre avec un contour d'oreille, vous avez au milieu un tube. Donc là, c'est carrément de la courbe. Vous avez le contour d'oreille à droite, gris ou marron, c'est marron. Mais le conduit qui va jusqu'à l'oreille, ce n'est pas un câble. C'est simplement un tube creux et qui permet là, pour le coup, d'avoir une... Ça, c'est vraiment dédié pour les personnes avec une très grosse perte auditive. Et celle qui est tout à droite, vous allez voir, donc il y a un contour d'oreille également, sauf que c'est un fil électrique qui va jusqu'à l'intérieur du conduit auditif. Donc ça, c'est pour des pertes moyennes de léger à moyen. Et après, c'est vraiment pour des pertes beaucoup plus importantes. C'est à partir de là l'implant cochléaire. L'implant cochléaire, c'est là, effectivement, que c'est un sujet relativement sensible, puisque c'est là où on commence à parler de réparer la surdité. Et là, effectivement, il y a en plus un souci d'argent, on va dire de lobbying quand même, derrière ça, en sachant que l'intervention complète plus l'outillage de l'implant coûte 20 000 euros par intervention à la sécurité sociale. 20 000 euros, voilà, déjà. Petit point pour comprendre un peu ce que c'est. Donc là, le pavillon, donc ce qu'on voit à l'oreille, tout autour, donc l'oreille, donc ça c'est l'oreille avec le conduit auditif. Autour de l'oreille, là, vous avez un contour d'oreille qui, lui, est le micro avec une pile, même une grosse pile, hein, c'est très gros. Hein. Ensuite, ce qu'il y a en partie ronde, ça pose directement, ça se, ça s'aimante directement sur la tête. Et à l'intérieur, ce qui est un tout petit peu plus, qui est un peu moins visible, c'est donc directement dans la tête. Voilà, c'est carrément, on a carrément intégré ça à l'intérieur de la tête. C'est lui qui va interpréter et renvoyer des sons, des sons. Donc dans le petit fil qui se retrouve, hop, qui rentre dans l'oreille, qui passe à côté du tympan, des trois os solaires. Et qui va donc dans ce que vous voyez là en, comme un escargot, c'est la cochlée. J'y arrivais plus. La cochlée, donc c'est grâce à ça qu'on entend. Donc si vous voulez, ça, c'est un fil électrique qui va tout au fond de toutes les cellules ciliées, pardon. Donc c'est là qu'on entend en fait. Donc en gros, ça va recréer un influx nerveux. Derrière donc cet escargot que vous voyez là, vous avez un petit fil qui remonte comme ça. Donc là, il y a le nerf vestibulaire. Donc la vestibule, c'est ce que vous voyez là, les deux petits ronds, donc les canaux semi-circulaires. Enfin, normalement, il y en a trois, mais là, on ne le voit pas. C'est là où, d'ailleurs, on a c'est grâce à ça qu'on a l'équilibre. Sachant que, bon, il n'y a pas que là, hein, mais là, c'est la vision, le toucher, donc ce qu'on appelle la proprioception, et l'oreille interne qui permet d'avoir un équilibre. Et c'est pour ça que cet outillage-là peut éventuellement quand même toucher, peut créer des troubles qui sont irréversibles, soit de l'audition de ce qui aurait pu rester, soit des pertes d'équilibre. Et en sachant qu'une vestibule qui ne fonctionne plus, c'est d'énormes nausées, c'est encore plus invalidant. Voilà. Je ne sais pas si je vais peut-être pas rentrer un peu plus dans le détail à partir de quand on est oreille interne, etc. Je pense que c'est pas forcément obligatoire. C'est pas forcément une méthode qui est. Alors ça fonctionne pas toujours, ça fonctionne mais pas toujours, et surtout ce qui est très contraignant et fâcheux, on met en avant, on répare l'oreille, vous allez être un entendant. Ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est la recréation par un influx nerveux, et donc il y a des gens qui l'acceptent, qui en redemandent un deuxième implant cochléaire, donc c'est leur choix. Par contre, quand on arrive, on dit « vous avez un enfant sourd », il est tout petit, c'est tout de suite, sans lui demander son avis, de l'implanter en disant « il va être comme un entendant, ça va le réparer ». Non, non. Voilà. Et là, ce n'est pas une position que j'ai faite comme ça, hein. C'est la réalité. Voilà. Alors du coup, avant d'aller un peu plus loin, je vais essayer de revoir au cas où qu'il y ait des questions. Merci. C'est ça. J'ai pas le sujet par rapport à la question. Soit le bon, ça ne parle pas de l'appareillage. Attends, je suis pas sûr que ce soit le bon, ça ne parle pas de l'appareillage. Ah, ok, et c'est pas irréversible, il y a de la kiné pour ça. Alors oui, alors, la rééducation vestibulaire, ça existe, mais uniquement quand c'est des cristaux qui sont à l'intérieur donc de la vestibule, des canaux semi-circulaires. Ce sont des petits cristaux qui se déplacent dans les trois sens. Et qui permettent de pouvoir se repérer dans l'espace. Par contre, si c'est atteint concrètement, je veux dire, si c'est atteint concrètement, je veux dire, ça ne réexistera plus du tout. Effectivement, on peut toujours forcer son cerveau à avoir un peu plus dans la vision, dans le toucher, etc., par la rééducation vestibulaire. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, on ferme les yeux et on se met à un seul pied et puis on fait des gestes en haut, en bas, de tête, et qui éventuellement peuvent faire une rééducation. Du coup, tu n'es pas pour l'implant sur le cerveau. Je ne suis pas certain de pouvoir dire est-ce que j'ai la légitimité de dire si je suis pour ou contre. J'aurais surtout envie de dire est-ce que c'est normal d'implanter des enfants très jeunes en disant aux parents qu'ils seront comme des entendants. C'est là en fait la chose la plus frileuse, j'ai envie de dire, parce que j'ai des amis qui sont implantés des deux côtés, d'autres qui ont été implantés et ont eu énormément de soucis, ils les ont retirés. en sachant que pour retirer ça, c'est l'enfer. Et d'autres qui ne veulent absolument pas être... Donc, il y a des pour, mais ça n'a pas fonctionné, et des contre. Donc, moi, à ma place, je dirais plutôt, je suis ni pour ni contre, mais il faut que ce soit avancé de manière éthique en termes médicaux. Voilà. Et il y a quand même aussi le côté finance qui vaut quand même plus de 20 000 euros. Hein. Voilà. En sachant qu'il y a une prothèse auditive, pour un appairage bilatéral, les plus chers tournent aux alentours des 4 000 euros, qui sont de plus en plus, remboursés très bien. Melk ?
Oui, c'était pour rebondir un peu sur tes propos. Est-ce que tu as connu deux exemples de personnes, une pour lesquelles ça leur changeait la vie d'avoir, par exemple, un appareil et qu'ils découvraient littéralement un nouveau monde et qu'ils en étaient heureux ? Et est-ce qu'à l'inverse, tu as connu des gens qui ont préféré, on va dire, retourner au monde du silence parce que, je ne sais pas, trop d'angoisse, trop de choses d'un coup
Eh bien, justement, cette question, donc j'ai eu plusieurs rencontres de gens et d'ailleurs dans les films que je vais vous proposer, reportages, etc., ils en parlent aussi. Pour les personnes qui sont pour et qui ont un implant et d'autres qui le sont contre, c'est carrément un couple. Donc, je veux dire, c'est un couple où ils ont fait les démarches ensemble, etc. Donc, pour une, ça a fonctionné. Elle aime vraiment le fait d'avoir cet outil-là. Attention, c'est quand même un son qui doit être... déjà, il y a un certain décalage. Alors peut-être ça évoluera peut-être plus tard. Souvent, on voit que la personne nous regarde, mais elle lit également sur les lèvres, parce qu'il suffit qu'on mette la main devant la bouche et elle ne comprend pas ce qu'on dit. Donc ça prouve bien qu'elle entend certes des sons, mais est-ce que l'intelligibilité du mot est là ? Ça reste encore à... Il y a des améliorations à faire. Le couple, pour venir à ce couple-là, une personne donc, qui a un côté implanté et de l'autre côté, elle a toujours une prothèse auditive. Enfin, qui avait une prothèse auditive. Elle a voulu plus tard refaire une deuxième implantation donc à l'autre oreille pour pouvoir être tranquille sur ça. Donc, elle est pour. Elle dit qu'effectivement, ça ne remplace pas une oreille. C'est quand même un son relativement robotisé, parce que comme elle a déjà entendu, aidé par la prothèse auditive, que oui, il y a quand même un changement entre... Sauf qu'elle a connu. Donc elle peut faire son choix. Elle a fait son choix en tant qu'adulte de dire « je veux être implanté des deux côtés ». D'autres, effectivement, se sont retrouvés dans un monde très bruyant, qui n'ont pas supporté. Le côté métallique, également des grosses douleurs de tête, enfin de maux de tête, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, qui ne sont pas forcément mises en avant également. Et d'autres qui sont totalement contre le fait de réparer le sourd. Voilà. Donc là, pour le coup, on a vraiment les trois vraiment côtés assez distincts sur la chose. Le théorème de la caverne. Ok, tu veux dire quoi par là, Mystique. Ensuite, attends, je vais poser une question, je n'ai pas eu la réponse, je crois. Attends, je remonte.
C'était comment les personnes qui deviennent sourdes gèrent l'absence de musique ?
Alors concrètement, personnellement, je n'ai jamais rencontré de personne qui avait perdu l'audition. Au cours de leur vie. Moi, j'ai toujours vu, bah, peut-être parce que j'étais vraiment, pour le coup, dans une association pour les sourds. Du coup, c'est vrai que je n'ai pas, à titre personnel, je n'ai jamais rencontré ce type de cas. Personnellement, si demain je devais perdre la musique, j'en serais très malheureux. Mais oui, je n'ai pas. Je suis désolé, je peux pas te répondre. J'ai pas eu de cas précis. Je n'ai pas eu de cas précis. Peut-on avoir une prothèse implantée plus une prothèse externe sur la même oreille ? Parce que dans ces cas-là, sur la même oreille, je ne suis pas certain. Par contre, oreille droite ou oreille gauche, par exemple, implantée, et de l'autre, pour l'autre oreille, avoir une prothèse, oui. Mais les deux, je ne pense pas, je n'ai jamais vu. C'était à propos de la découverte d'un nouveau monde. Ah, d'accord. Je vois pas la question. Excusez-moi, mistake.
Bah, tu sais, c'était une personne qui découvre d'un coup les sons. Il découvre un nouveau monde, il sort de la caverne, l'allégorie de Platon.
Ah, d'accord. J'ai pas la référence. Alors, oui.
Pardon, pour rebondir sur ce que tu disais avec la musique, ce que Dovahkiin demandait, j'avais connu un sourd, un ami, et et ben en fait, il adorait aller par exemple en boîte de nuit et il aimait particulièrement les musiques comme le rap ou le hip-hop parce qu'en fait, il entendait les vibrations, il les ressentait en tout cas, et du coup, et ben il dansait super bien.
Et oui, et effectivement, le sourd, il ressent les vibrations. Et en plus, grâce à la langue des signes, quand même, il y a aussi les chants signés. Le chant signe, donc ça veut dire qu'il y a des interprètes ou même des sourds qui créent des musiques, des chants signés. Et ça ressemble effectivement quand même à de la poésie, un peu comme si on lisait un texte sans la musique. On peut se sentir, quand on réécoute une musique ou qu'on lit une musique, un texte d'une musique, sans avoir le son. On peut également partir loin, entre guillemets, on peut rêver, on peut... Et les sourds, ils aiment les boîtes de nuit. Hein. Moi, je suis sorti plein de fois en boîte de nuit avec eux parce qu'il y a des lumières, il y a de la vibration, il y a... Voilà. Et par contre, l'avantage, c'est qu'en langue des signes, on n'a pas obligé de hurler dans les oreilles pour communiquer. Blague à part. C'est quand même pratique. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à ta question. Melk.
Oui, d'ailleurs, c'était pas une question, c'était un témoignage pour le côté où Dovahkiin demandait si ça manquait la musique.
Oui, la musique, j'ai pas le cas, mais j'ai plein d'amis sourds qui écoutent la musique, oui. Alors, peut-être différemment, oui, c'est même pas peut-être, c'est même sûr, mais ils écoutent la musique. Du coup, c'est un problème. Attends, c'est bon. Donc, ça dépend sûrement de la manière dont on envisage la surdité, voire le handicap en général. Est-ce que c'est une tare à guérir comme une maladie congénitale? Est-ce que c'est une particularité certes gênante, mais qui fait partie intégrante d'une personne et qu'on peut bien vivre avec? Exactement. Dans ce premier cas, l'implantation à la naissance est une nécessité médicale. Dans le second, on n'implante pas à la naissance, mais ça peut handicaper par la suite pour rendre difficile l'adaptation une fois l'enfant adulte implanté. Eh bien, c'est toute la question. Sauf que ça, c'est au médecin de nous éclairer sur ça. Mais sans le côté lobbying de la chose. Et aujourd'hui, clairement, en France, je ne sais pas dans d'autres pays, mais en France, c'est comme ça. Pour avoir travaillé donc avec, je peux donner le nom de toute façon, l'Arieda à Montpellier, on s'est retrouvé avec un conseil d'administration qui était pro-oraliste, donc qui se laissait fait, entre guillemets, par les médecins pour carrément venir dans les associations pour dire il faut implanter, tout en approfondissant le côté langue des signes, intégration, etc. C'est à eux de faire les choses correctement pour prendre les bons choix, pour se faire les bons choix. C'est pas un parent ou un adulte qui n'a pas forcément la connaissance médicale pour faire son choix. Et aujourd'hui, il y a ce travail-là surtout à faire. Le choix, ça appartient à la personne. Mais par contre, il faut quand même que la personne ait en face... le professionnel qui fasse son métier. Il y en a qui le font très bien, attention, là je ne jette absolument pas la pierre sur le métier, mais effectivement, bah là, sur ce sujet-là, il y a du travail. Il y a du travail. Du moment où la réparation est un outil qui peut se gérer en enlevant soi-même. Le traumatisme, se faire brancher des électrodes dans le cerveau pour stimulation neurologique, en fait, ce n'est pas vraiment éthique. Ma foi, c'est pas forcément en lui-même le fait de le poser, de le brancher, mais plus comment est-ce que c'est amené en tout cas. Question éthique et bioéthique s'évalue. C'est pas évident comme question. Soyons tous des robots au pire. Melk, tu voulais reposer une question.
Juste, on va prendre une minute d'entracte. Je vais relancer les bots d'enregistrement.
Allez.
Je fais ça vite.
Posez pas trop de questions, hein. j'y arriverai pas à te répondre.
Pourquoi le monde, où est le sel, qu'est-ce que le fromage blanc?
Voilà, c'est ça, non, la philo à cette heure-ci.